Bonsoir à tous et bienvenue dans ce 20e numéro de GKL, un magazine d'actualité proposé et préparé par les écoliers de CM1, CM2 de l'école française d'Empadrianum. Autour de moi ce soir, 6 nouveaux chroniqueurs ravis de vous retrouver pour commenter tout au long de l'émission l'actualité de la semaine. Bonsoir Simon.
Bonsoir Stéphane. Bonsoir à tous les auditeurs.
Quel sujet d'actualité a retenu particulièrement ton attention cette semaine?
Je vais de nouveau vous parler d'Haïti. Le gouvernement a annoncé le week-end dernier la fin des recherches.
A-t-on découvert beaucoup de survivants?
132 personnes ont été sauvées des décombres jusqu'au miracle de samedi. Alors que les recherches étaient officiellement terminées, des sauveteurs français ont découvert un jeune homme vivant, coincé sous les gravats 11 jours après le séisme. Un record!
Comment a-t-il pu résister aussi longtemps?
Wismond Exantus travaillait dans une épicerie quand elle s'est effondrée. Dans son malheur, le jeune haïtien a eu de la chance. Une boutique construite en bois qui laissait passer l'air. Aucune fracture et quelques boissons et biscuits à proximité. On écoute les explications de la caporale-chef de la protection civile, Marie-Laurent Cessy, qui est allée chercher le miraculé.
Ouais, on a un petit peu parlé. Je voulais savoir déjà s'il arrivait à bouger, comment il se sentait, s'il voulait à boire. Donc heureusement, il avait des boissons gazeuses là, qui lui ont permis de survivre jusqu'à ce jour. Voilà, il s'est avéré qu'une fois la planche coupée, en l'aidant un peu, il a réussi à sortir.
Que va-t-il se passer maintenant?
Le déblaiement complet des ruines a commencé. Ensuite, ce sera l'heure de la reconstruction. Entre-temps, il faudra bien évidemment récolter de l'argent pour venir en aide aux Haïtiens qui ont tout perdu. Les initiatives sont nombreuses, comme cette chanson interprétée par de grands artistes français.
Pour Haïti et son peuple, le compte à rebours a débuté. Tous ensemble, soyons à la hauteur du mot solidarité.
Bonsoir Tyr, quel est le sujet de ton coup de colère?
Bonsoir à tous. Chers auditeurs, je vais vous parler des nombreux attentats qui ont lieu en ce moment à Bagdad.
Que se passe-t-il dans la capitale irakienne, Tyr?
Depuis le mois d'août dernier, les attentats se multiplient. En début de semaine, ce sont 3 grands hôtels qui ont été visés près de la zone verte ultra sécurisée. On écoute le reportage d'un journaliste de France 24.
Les attentats étaient visiblement bien coordonnés. 3 voitures piégées ont explosé à quelques minutes d'intervalle, prenant à chaque fois un hôtel pour cible. Le Sheraton a été le premier touché. Il abrite surtout les bureaux de médias occidentaux et d'entreprises. Les murs de protection en béton qui l'entourent n'ont pas résisté à la déflagration et presque toutes les vitres ont été soufflées. Des journalistes occidentaux logent également dans l'hôtel Alhambra qui a été touché peu après. La dernière bombe a explosé près du Babylone, qui lui abrite habituellement des réunions gouvernementales. Les attaques de lundi ont fait des dizaines de morts, mais le bilan exact reste pour l'instant incertain. Les mesures de sécurité avaient pourtant été renforcées après de récents attentats spectaculaires à Bagdad. La dernière attaque terroriste d'envergure datait du 8 décembre dernier et avait fait plus de 100 morts.
Pourquoi ce climat de terreur règne-t-il?
Suite aux attentats du 11 septembre, les troupes américaines sont intervenues pour arrêter le président irakien Saddam Hussein. L'armée américaine est restée pour maintenir la paix et reconstruire le pays, mais une longue guerre civile s'est engagée. Depuis que Barack Obama est devenu président, les Américains se retirent peu à peu et des élections législatives sont prévues le 7 mars. Mais des insurgés mènent encore des actions terroristes pour empêcher le peuple irakien d'accéder enfin à la démocratie. Les attentats risquent donc de s'intensifier jusqu'à cette date.
Bonsoir Raphaël.
Bonsoir Stéphane.
La page sportive semble très chargée.
Oui, et je vais commencer avec le football africain. Les quarts de finale de la CAN ont réservé des surprises avec l'élimination de la Côte d'Ivoire et surtout du Cameroun à l'issue de la prolongation. On écoute Paul Le Guen, l'entraîneur des Lions Indomptables.
On est malheureux, on est malchanceux. Bon, il va falloir s'en remettre et puis préparer la Coupe du Monde. On avait envie d'aller jusqu'au bout, mais vraiment, il n'y a pas manqué grand-chose.
Demain, il y aura donc une demi-finale nord-africaine entre l'Algérie et l'Égypte et une demi-finale noire-africaine entre le Ghana et le Nigeria.
En Europe, c'est plutôt le handball.
Effectivement. Et les grands favoris sont les experts, surnom donné à l'équipe de France. Déjà championne olympique et championne du monde, elle va essayer de gagner un troisième titre à la suite, au championnat d'Europe. Et c'est bien parti, puisqu'elle est pratiquement qualifiée pour les demi-finales. On écoute l'analyse d'un journaliste d'RTL à la fin du match contre la Slovénie.
L'équipe de France a construit sa victoire en deuxième mi-temps puisque les tricolores étaient menés d'un but, 18-17 à la pause. Ensuite, eh bien, les hommes de Claude Onesta ont accéléré avec un super Michael Guigou, auteur d'un 10 sur 10 au tir. La défense française plus performante également et les Slovènes, eh bien, peu à peu, ont lâché prise.
En Australie, enfin, c'est le tennis.
Oui, l'Open d'Australie est le premier tournoi du Grand Chelem. Aucun Français ne l'a déjà gagné. Mais Joe Wilfried Tsonga joue en ce moment en quart de finale dans un match très serré contre Novak Djokovic. Voici la réaction du tennisman tricolore après avoir gagné le match précédent.
Je suis content d'avoir gagné, gros match, c'était long, c'était intense et voilà, je pense qu'on a produit du bon tennis et à la fin j'en sors gagnant, donc voilà, je suis heureux.
Bonsoir Baptiste.
Bonsoir Stéphane, bonsoir à tous.
Pas d'infos insolites aujourd'hui, mais une rubrique exceptionnelle, car le 27 janvier est la journée...
de la mémoire des génocides et de la prévention des crimes contre l'humanité.
Mais Baptiste, qu'est-ce qu'un génocide ?
C'est un crime consistant à détruire un grand nombre de populations pour des raisons ethniques, racistes ou religieuses. Récemment, il y a eu un génocide au Rwanda. Il y en a eu un également au Cambodge perpétré par les Khmers rouges à la fin des années 70, mais le plus terrible fut celui des nazis pendant la Seconde Guerre mondiale.
Pourquoi la date du 27 janvier a-t-elle été retenue ?
Justement parce que c'est la date où les soldats russes de l'armée rouge ont libéré le camp d'extermination d'Auschwitz en 1945.
À quoi servait un camp d'extermination ?
Les nazis en avaient construit plusieurs, surtout en Allemagne et en Pologne. Il servait à éliminer des prisonniers communistes, tziganes et surtout juifs. 6 millions de personnes ont ainsi péri, comme Anne Frank par exemple.
Qui était Anne Frank ?
C'était une jeune fille juive qui s'est cachée 2 ans avec sa famille à Amsterdam avant d'être déportée dans un camp. Son journal intime a été publié après sa mort et il est devenu très célèbre. On écoute un extrait du dessin animé tiré de son livre racontant l'arrestation d'Anne Frank et de sa famille.
Bonjour, monsieur. Qu'est-ce que je peux faire pour vous ?
Je vais voir le directeur, monsieur Kopois. Nous savons que vous cachez des juifs ici. Où sont-ils ?
Pourquoi Mip n'est-elle pas encore montée ?
Oui, c'est curieux, elle qui est toujours si cruelle.
Et où se cache-t-il, ces sales juifs ? Ah, et voilà.
Ne bougez plus.
Ah, vous êtes bien vite, comme la personne qui vous a dénoncé nous l'a dit. Je vous donne 5 minutes pour être prêt à quitter le lieu, compris ? Apportez-moi tous vos objets de valeur. Eure Wertsachen. Halt euch. Raus.
Nous avons d'ailleurs appris ces derniers jours la mort de Mipris, la personne qui avait caché la famille d'Anne Frank à Amsterdam.
Oui, elle est morte à l'âge de 100 ans. C'est elle qui avait aussi découvert et préservé les manuscrits d'Anne Frank. Son journal, bien sûr, mais aussi ses contes, dont on parlera dans une prochaine émission.
Bonsoir Kevin. Quel est le sujet de ta rubrique ?
Bonsoir à tous. Je vais vous présenter La Princesse et la Grenouille, un dessin animé qui sort aujourd'hui dans les cinémas européens.
S'agit-il d'un Walt Disney ?
Oui, et l'héroïne est pour la première fois une princesse noire.
Que raconte l'histoire, Kevin ?
Le dessin animé est inspiré d'un conte slave. Le prince Navin de Malédonia est transformé en grenouille par un terrifiant magicien voodoo. Pour retrouver sa forme humaine, il part à la recherche d'une princesse qui acceptera de lui donner un baiser. Mais lorsqu'il rencontre Tiana, rien ne se passe comme prévu. Je ne vous dévoile pas la suite de l'intrigue, mais je vous propose tout de même d'écouter un extrait de la bande-annonce.
Tu aimerais que je t'embrasse, hein ?
Oui, j'avoue qu'un baiser me conviendrait. Je suis le prince Navi.
Je peux continuer ?
Un prince ?
J'ai été envoûté par un sorcier. Au naturel, je suis un prince charmant, désirable, danseur hors pair, et puis d'une minute à l'autre, là, je me prends les pieds dans ces trucs-là.
Tout le monde croit connaître l'histoire de la princesse et la grenouille.
Il faut que tu m'embrasses.
Je te demande pardon.
Je t'en prie, princesse, ça me fera redevenir humain.
Alors, un seul baiser.
Mais personne ne sait ce qui s'est passé après le baiser. Oh. Jusqu'à aujourd'hui.
Ce soir, nous sommes enchantés d'avoir comme invité dans le studio de Wanatu, Monsieur François Busson, forestier, pour un entretien passionnant sur la forêt malgache.
Bonsoir François Busson.
Bonsoir Jade.
Madagascar est surnommée l'île rouge. Mais avant la présence de l'homme, l'île était-elle entièrement recouverte de forêts ?
Alors en fait, non. Il faut savoir qu'actuellement, il y a à peu près 10 millions d'hectares de forêts naturelles à Madagascar, sur pratiquement 60 millions d'hectares, donc à peu près un sixième. On sait que par exemple en 1900, il y en avait à peu près le double, à peu près 20 millions d'hectares. Mais on n'a pas vraiment de preuves qu'il y en avait beaucoup plus si tu remontes beaucoup dans le temps. Et au contraire, on sait qu'il y a toujours eu à Madagascar une bonne partie du territoire qui était non couvert de forêts, avec des savanes, des prairies, des choses comme ça. Donc l'homme a effectivement une responsabilité dans la diminution de la surface des forêts, mais Madagascar n'a jamais été une espèce d'île complètement couverte de forêts. Ça, il faut se retirer un peu ça de la tête.
Pourquoi la forêt a-t-elle diminué ?
Alors il faut mettre ça surtout en relation avec l'évolution de la population. Quand on prenait l'échéance de 1900, il y avait à cette époque-là à peu près 2 millions, 2,5 millions d'habitants à Madagascar. Aujourd'hui, il y en a 20 millions. Et effectivement, sur cette période, il y a eu une diminution assez forte de la forêt. Et il faut comprendre que les populations de Madagascar sont essentiellement rurales, donc elles vivent à la campagne. Et elles n'ont pas beaucoup de possibilités d'exploiter notamment l'agriculture autrement qu'en coupant la forêt et en la brûlant et en plantant du riz. Et donc, comme elles n'ont pas d'autres moyens de subsistance, elles continuent toujours à grignoter la forêt. Plus il y a de personnes, et ben plus la forêt est grignotée.
Quelles sont les conséquences de la déforestation ?
D'un point de vue, disons, environnement et de l'écologie, la disparition de la forêt, ça veut dire de la disparition de la biodiversité, c'est-à-dire à la fois de tout un ensemble de plantes et d'animaux. Et une fois que la forêt primaire a disparu, c'est très difficile de retrouver cette biodiversité. Pour l'homme lui-même, ça a aussi des conséquences, parce que faire disparaître de la forêt, ça veut dire qu'il faut aller plus loin pour chercher du bois, pour chercher des fruits, pour avoir de l'ombre, et ça a aussi des conséquences sur le régime hydrique, c'est-à-dire la façon dont les rivières coulent. Souvent, quand on coupe la forêt, les rivières coulent moins longtemps ou s'assèchent plus vite. Et éventuellement aussi sur l'érosion, c'est-à-dire sur le fait que la terre sur les flancs des collines est entraînée par les pluies et va vers le fond des vallées, et notamment vers les rizières. Et c'est un problème aussi pour l'homme, parce que ces rizières finissent par être remplies de boue, disons.
Quelle est la différence entre une forêt primaire et une forêt secondaire ?
Alors, une forêt primaire, il faut bien voir que c'est pas seulement de la forêt. C'est un écosystème, c'est-à-dire un ensemble de plantes et d'animaux qui vivent en relation les uns avec les autres depuis des centaines d'années, voire des milliers. C'est-à-dire que les animaux profitent des fruits, profitent des abris des arbres, les arbres ont besoin des animaux pour disséminer leurs graines, par exemple, et tout ça est en équilibre. Si tu fais disparaître cette forêt primaire, tu fais disparaître tout l'écosystème, et c'est très difficile de retrouver, de reconstituer après tous les éléments. Tu auras beau planter quelques arbres qui viennent de cette forêt primaire, tu n'arriveras pas à la reconstituer. Donc quand tu la fais disparaître, il pousse à nouveau d'autres plantes, donc là, les formations secondaires, comme on dit, mais ces forêts secondaires sont beaucoup moins riches, beaucoup moins complètes, et abritent beaucoup moins de plantes et d'animaux que les forêts primaires.
On a entendu beaucoup parler de trafic de bois de rose dans la presse. Quelle est la particularité de cet arbre ?
Alors, c'est un arbre qui donne un bois très joli et qui a des qualités au niveau de la solidité, au niveau de la possibilité de travailler, donc faire des objets avec, qui sont très intéressantes. Alors, c'est très bien, sauf que malheureusement pour lui, bah, cet arbre, grâce à ses qualités, il vaut très cher. À Madagascar, on est dans une situation un peu particulière, où disons c'est un peu difficile de faire bien respecter les lois. Alors les coupes de bois de rose théoriquement c'est interdit, mais actuellement il y a des gens qui profitent un peu de la situation pour couper ces bois de rose, les vendre, et il faut savoir que 1 mètre cube de bois de rose, eh bien ça vaut $5,000, donc c'est beaucoup d'argent, et il y a des gens qui veulent profiter de la situation pour gagner beaucoup d'argent très vite.
Que doit-on faire pour que Madagascar devienne une île verte ?
Il faut essayer de planter, mais il faut aussi essayer de préserver effectivement la forêt qui reste, la forêt primaire notamment. Et ça, il faut bien comprendre que on ne peut y arriver que en s'occupant aussi des gens, leur offrant des possibilités de s'éduquer, d'avoir des nouveaux métiers et d'avoir d'autres revenus que en utilisant et en exploitant la forêt.
Merci pour toutes les explications. Au revoir, Monsieur Busson.
Merci, Jade. Au revoir.
C'est maintenant l'heure de vous faire gagner le magnifique t-shirt de l'émission offert par Move. Pour cela, il faudra être le plus rapide à la question qui va suivre. Nous vous rappelons que vous pouvez jouer par SMS au 032 32 007 65 ou bien au 033 56 007 65 ou encore au 034 34 007 65 en n'oubliant pas d'indiquer JK, un tiret et votre prénom avant la bonne réponse. À vos touches téléphoniques, voici la question. Quel est le nom du tennisman français qui, on vient de l'apprendre, vient de se qualifier pour les demi-finales de l'Open d'Australie ? Nous vous quittons avec une pensée pour notre chroniqueuse Mara qui subit une intervention chirurgicale en ce moment. La semaine prochaine, nous recevrons Lucien Ravello-Jones, un historien qui évoquera pour nous la fondation et l'évolution de la ville de Tananarive. Bonne soirée sur Wanatu.